Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous, voici Wagon Livre, votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi. En ce samedi 11 janvier, un nouveau numéro de votre rendez-vous littéraire avec aujourd'hui une rétrospective des grands moments de l'année 2019. Nous aurons l'occasion au cours de cette émission de réentendre la romancière Dominique de Saint-Perne pour un roman qu'elle a consacré à la jeunesse de la romancière et journaliste Edmonde Charleroux. Nous aurons aussi l'opportunité d'entendre Jean-Baptiste Maudet. C'est un jeune chercheur en géographie qui vient de faire paraître un premier roman qui a obtenu d'ailleurs le prix Orange 2019, roman intitulé Matador Yankee et qui en fait met en scène un torero américain qui va toréer dans un lointain village du Mexique. Ce sera l'occasion avec Jean-Baptiste Maudet de réévoquer ces toreros américains à Los Angeles qui rêvent de toréer ou en Espagne ou au Mexique, et l'occasion d'évoquer ce divertissement qui avait atteint son sommet dans les années 50-60. Nous réentendrons un extrait d'un entretien avec Pauline Maucor, journaliste à France Culture, qui a écrit sur les séquelles que les opérations militaires extérieures ont laissé auprès de soldats français. C'est le thème de son livre « La guerre et après » aux éditions Les Belles Lettres. J'avais rencontré Pauline Maucor fin juillet 2019 alors qu'elle était en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay. Nous reviendrons sur le dictionnaire amoureux des saints avec un entretien avec le grand reporter journaliste au Figaro Christiane Rancé. Et nous allons ouvrir ce numéro de Wagon Livre avec un extrait d'une émission que nous vous avions proposée en avril 2019 avec Philippe Berthelangereau. Philippe Berthelangereau est originaire du petit village de Saint-André en Morvan dans la Nièvre et depuis une quarantaine d'années il recueille un grand nombre de documents sur le Morvan. Alors après son roman « Les loups n'oublient jamais » paru en 2016 aux éditions Sutton, Philippe Berthelangereau était reparti sur les traces de cet animal dans le Morvan en s'appuyant sur des témoignages et des documents d'archives. Et il s'agit d'un très beau livre, toujours disponible en librairie aux éditions Sutton et qui a pour titre « Les loups dans le Morvan ». Un livre qui tombe bien puisque finalement il existait assez peu d'ouvrages sur le loup, notamment le loup dans le Morvan. Philippe Berthelangereau.
Curieusement, il existait peu d'écrits sur le loup, peu d'études sur le loup spécifiquement dans le Morvan. Et donc en 82, je faisais partie d'une association qui s'appelait La Poêlée, qui travaillait sur le Morvan, et qui était une association, bon aujourd'hui elle est disparue, mais à l'époque on avait pour mission d'enregistrer des témoignages au niveau des traditions, au niveau de la musique locale, traditionnelle. Et à l'époque, en 82, j'avais entrepris de faire des enregistrements auprès des anciens, donc auprès des personnes de l'époque qui était née dans les années 1895, 1900, 1910, et qui, à l'époque, avait toujours des souvenirs bien ancrés, bien précis sur la présence des loups dans le Morvan. Alors, c'est des gens que j'avais enregistrés, une trentaine à peu près, et qui racontait des faits, des anecdotes qui étaient arrivées soit à leurs parents, soit à leurs grands-parents, ou même arrière-grands-parents. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, parce que les arrière-grands-parents de ces personnes-là étaient nés tout à fait au début du 19e, dans les années, au début des années 1800. Et donc, c'est là qu'on voit qu'avec la mémoire, on peut passer les générations. Hein. Et j'avais donc entreposé toutes ces cassettes. Je les ai réécoutées. Et je me suis dit, le loup fait parler de lui dans le Morvan, puisqu'en 2017, il avait été photographié dans la région de Château-Chinon, à Chougny, exactement, par un agriculteur qui s'était fait tuer quelques brebis, qui avait mis une caméra pour filmer la nuit. Donc je me suis dit, le loup réapparaît dans le Morvan, donc pourquoi pas utiliser toutes ces données qui avaient déjà près de 35 ans. Et je me suis attaché à ça. Et puis, évidemment, en compulsant aussi les archives départementales de la Nièvre et de Lyon, où on retrouve beaucoup, beaucoup de témoignages anciens.
Alors, il y a aussi un grand intérêt à lire les bulletins paroissiaux, les curés racontant parfois, tenant la chronique nécrologique des ouailles. Un tel attaqué par un loup, un enfant tué, décapité par un loup. Il y a des choses terribles
tout
dans les témoignages.
Tout à fait, oui. Il y a des beaux témoignages et des témoignages très précis en général, avec le nom des personnes, évidemment la date, le moment de la journée, des enfants qui étaient en train de garder un troupeau, qui s'amusaient, puis un loup a surgi, en a emmené un, etc. Enfin, il y a vraiment des témoignages qui sont émouvants des fois, et puis très vivants aussi. Hein.
Alors si vous me le permettez, Philippe, je vais vous laisser le temps de trouver un témoignage. Moi, je vais lire celui qui est reproduit dans votre ouvrage, alors sous la plume de Vauban, dans sa description géographique de l'élection de Vézelay. Bon, Vézelay est dans le Morvan.
Oui. Ah oui, oui, oui. Hein.
Avallon est ville-porte du Morvan, mais Vézelay est...
Disons que ce sont les marges.
Et voici ce qu'écrit Vauban en 1696. « Il y aurait assez de gibier ou de venaison si les loups et les renards, dont le pays est plein, ne les diminuaient considérablement. » Les mêmes loups font encore un tort considérable aux bestiaux, dont ils blessent, tuent et mangent une grande quantité tous les ans, sans qu'il ne soit guère possible d'y remédier à cause de la grande étendue des forêts dont le pays est à demi couvert. Donc le loup, le loup concurrent présent. Des chasseurs.
Ah oui, puis concurrent surtout des malheureux paysans qui essayaient d'élever quelques bétails.
Alors, en 1709, à Clamecy, vous racontez qu'un boucher de Clamecy aurait vendu de la viande de loup à une famille qui, justement, va se plaindre. C'est en 1795, à Clamecy, pardon. Donc, on est au moment des épisodes de la Révolution française. Et d'ailleurs, à Clamecy, on a donné au Clamecy quoi le surnom de mangeur de loup.
Le mangeur de loup, exactement. Oui.
Alors, on a vendu à cette famille de la viande de loup en disant que c'était de la chèvre. Alors, c'est très amusant. C'était pas la chèvre de M. Seguin. Mais là aussi, on voit bien dans le patrimoine littéraire, vous qui avez été professeur de lettres, Philippe, le loup, on le rencontre en poésie, on le rencontre dans
partout,
les contes,
oui.
Dans les légendes, c'est exceptionnel cet animal.
Oui.
Est-ce que vous voulez nous lire un témoignage alors, il y en a beaucoup, et moi je vous avais demandé avant d'enregistrer cette émission d'en mettre un en valeur, mais pendant que vous recherchez ce témoignage, on va parler dans quelques minutes un petit peu de la lutte organisée. Alors, elle l'a été depuis longtemps, puisque finalement, ça remonte à 813, Charlemagne, l'institution, la création de cette caste de privilégiés des louvetiers.
Les louvetiers, ça remonte
et
même à Charlemagne, la création.
Alors, est-ce que vous voulez nous lire un témoignage, un des plus impressionnants, et il y en a qui sont absolument savoureux.
Je trouve que c'est un beau témoignage qui a été écrit par François Roumier, qui m'a été remis d'ailleurs par un de ses descendants. Hein. Et ce monsieur, qui était originaire de Dun-les-Places, avait écrit en 1978 ce témoignage qu'il avait écrit pour ses petits-enfants. Au temps de mon enfance, au début de ce siècle, c'est-à-dire le 20e, il n'y avait pratiquement plus de loups en Morvan. À peine pouvait-on voir, par les hivers rigoureux et neigeux de cette époque, les traces de deux ou trois hardes de ces animaux qui se déplaçaient pour subsister, de la forêt des Ardennes à celle du Nivernais. Mon seul souvenir authentique est celui de la large empreinte d'un loup qui, en janvier 1914, par un grand froid, était venu ronger la porte des écuries dans l'espoir de se procurer de la nourriture. Cela avait provoqué un beau tumulte chez les animaux domestiques et les chiens de chasse qui ont horreur du loup et de son odeur. Le jour même, nous avons traqué la bête avec d'autres chasseurs sans succès. Les chiens revinrent rapidement, la queue entre les jambes, épouvantés par les fauves qui leur tenaient tête dans les rochers du bois Nonain. Après 1870, l'organisation des compagnies de louveterie, armées de fusils à piston ou à broche, la diffusion des armes à feu et surtout la prime de 50 francs or offerte par l'État pour chaque bête abattue, avait rapidement provoqué la disparition de ces bêtes dites faramines. Vous voyez, c'est un peu un témoignage sur la fin des loups dans cette partie du Morvan.
Philippe Berthelangereau, à l'instant, à notre micro pour son ouvrage « Les loups dans le Morvan », toujours disponible en librairie aux éditions Sutton. Nous allons maintenant réentendre Christiane Rancé, romancière et essayiste, que j'avais rencontrée en fin septembre 2019 lors de la 12e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Christiane Rancé, dont les livres s'attachent à dresser les portraits de figures littéraires, Léon Tolstoï, Simone Veil, ou des figures spirituelles comme Jésus, Catherine de Sienne, ou le pape François. Elle a reçu le prix de l'essai de l'Académie française pour son Thérèse d'Avila et le prix Spiritualité d'aujourd'hui pour sa lettre à un jeune chrétien et à ceux qui ignorent qu'ils le sont. On réentend Christiane Rancé, enregistrée fin septembre 2019, lors de la 12e édition de Livre en Vigne.
J'étais donc grand reporter, j'étais journaliste au Figaro, et donc je m'occupais beaucoup des relations, de ce qui se passait au Vatican. Et je suis allée très très souvent à Rome, et j'ai rencontré plusieurs fois Jean-Paul II, et j'ai été frappée par le charisme qui est une des caractéristiques du saint. Le saint manifeste une puissance à être absolument extraordinaire et un charisme extraordinaire qui passe par l'irradiation de l'amour qu'il porte aux autres. Et je reverrai toujours le visage de Jean-Paul II prenant des enfants malades, prenant des paralytiques, ce regard à la fois de compassion, d'amour et de désir d'une présence pour eux, d'une telle force que tout le monde en était, on va dire, recevait cette contagion. Et d'ailleurs, si Jean-Paul II a pu réunir 1 million de jeunes au JMJ à Paris, c'est qu'il avait effectivement ce charisme. Mais pour moi, ce que Jean-Paul II a eu très très beau, ça a été le fait qu'il reste debout, qu'il reste dans la maladie, là où il était. Et je peux vous dire que j'étais, au moment où il est mort, dans un couloir d'un hôpital de ce qu'on appelle des soins palliatifs, auprès de quelqu'un qui m'était très très cher, et je me rappellerai toujours le secours qu'il a porté aux malades, eux-mêmes sur le seuil de la mort, par cette résistance à la souffrance et cette acceptation de sa condition d'homme malade, faible et affaibli. Et il a été héroïque dans sa sainteté à ce moment-là.
Je rappelle que Jean-Paul II est mort en 2005, le 2 avril, c'est bien cela. Parlons de Thérèse d'Avila, voilà une sainte que vous ne connaissez que trop bien. Oui. Alors Thérèse d'Avila, on est au XVIe siècle, elle est née en 1515, morte à 67 ans en 1582. Alors c'est aussi une haute figure du féminin là.
Ah ben c'est une femme qui est extraordinaire.
Féministe même ?
Oui, féministe, bon, faisons toujours attention aux anachronismes. Non, mais vous n'exagérez pas, parce qu'elle avait, comme toutes les saintes, comme toutes ces personnes, une idée de la... Ce qui l'intéressait, c'était la personne, c'était ce corps qui portait une âme. Qu'il ait été masculin ou féminin était très peu important pour elle. Et elle en acceptait absolument toutes les manifestations. Mais elle l'a tellement accepté qu'elle a donner, on va dire, une espèce de cahier des charges à ces novices qui correspondait à leur féminité. Elle leur disait, l'avantage d'une femme, c'est d'avoir toujours des gestes fructueux. Le geste d'une femme est toujours fructueux. Vous verrez n'importe quelle femme passer dans une maison, elle va caresser la joue d'un enfant, elle va arranger un bouquet de fleurs. Il y a cette nature féminine, profondément féminine, je ne dis pas qu'elle n'existe pas chez les hommes, je dis qu'il y a cette nature profondément féminine de l'ordre, de l'harmonie. Et elle avait ça, c'est qu'elle était une sainte qui demandait à ses novices d'être joyeuses. Et en même temps, elle était d'une virilité dans le sens, c'était une guerrière, c'était une femme d'action. C'était à la fois une très grande mystique, un très grand écrivain, c'est un docteur de l'Église qui a écrit ce chef-d'œuvre qui est le Château intérieur, qui est d'une beauté extraordinaire. Même les gens qui n'ont pas la foi, je les engage à lire ce livre qui est extraordinairement beau. Et en même temps, c'était une femme d'action. Voilà cette femme qui va partir sur ces plateaux de Castille en pleine chaleur et sous, alors que les femmes n'avaient pas le droit de sortir de chez elles, qu'elles pouvaient être brûlées comme sorcières, même et encore plus les religieuses, avec sa petite carriole là, c'est novice, ses casseroles qui pendouillaient, et elle va prendre ses chemins qui étaient en plus harcelés par les bandits pour aller fonder des monastères au cœur des villes, toujours au cœur des villes pour que la prière soit là, et elle voulait que les femmes travaillent. Elle s'est battue avec le pape parce qu'elle refusait que les novices ne puissent entrer dans l'ordre des carmélites que si elles avaient une dot. Elle disait, mais on se fiche de la dot, ce qui est important, c'est cette vocation. Et ça, et elle s'est battue pour ça, et elle voulait que ces femmes travaillent pour pouvoir retisser, on va dire, un lien avec la société, c'est-à-dire être à la fois hors le monde et dans le monde par le travail, et hors le monde par la contemplation et la prière. Mais elle voulait aussi que les femmes, elle organisait des heures de récréation, de musique, de danse. C'est une femme qui était en porosité magnifique avec la beauté du monde, avec la beauté du cosmos. Elle n'a rien renié, ni de sa féminité, ni de cette aspiration extrêmement aride à rencontrer Dieu.
Alors, féminité de Thérèse d'Avila, il y a ces extases et surtout cette confusion entre les représentations, disons, d'extase,
physique, bien sûr.
C'est ça. Confusion entre extase
sexe
et orgasme.
Ah,
ça, c'est très intéressant aussi.
Mais ça, c'est encore c'est un subtil distinguo. On a voulu, au début du XXe siècle, attaquer Thérèse d'Avila. Vous savez, c'est la fameuse statue du Bernin. Évidemment, le Bernin étant beaucoup plus tardif, n'ayant pas connu Thérèse d'Avila, représentait cette transverbération, c'est-à-dire ce moment où Thérèse d'Avila, dans une extase, a senti son cœur fléché d'amour. Donc il a représenté cette extase, et évidemment, qu'est-ce qu'il a donné comme expression à cette extase, si ce n'est l'expression d'une jouissance totale. Mais elle-même acceptait tout à fait ses états corporels. Elle avait à Saint-Jean de la Croix et à son frère à qui elle avait appris à prier et qui se plaignait dans l'ardeur qu'il avait et dans ces moments de rencontre mystique, il se plaignait d'avoir des érections et d'avoir des éjaculations. Et Thérèse d'Avila lui répond très simplement dans une lettre, elle le dit bien oui, ça arrive, mais il est normal que votre âme a pour chasse et pour enveloppe un corps, il est normal que ce corps manifeste son plaisir et sa jouissance spirituelle par l'expression d'une jouissance physique. Il n'y avait absolument pas ce côté « serrez vos genoux, mon Dieu, quelle horreur !» Évidemment, ce qu'elle disait, c'était qu'il ne fallait pas prier pour s'arrêter, on va dire, à cette première manifestation, qu'on arrivait à dépasser ce stade pour arriver vraiment à une extase et à une ouverture totale spirituelle. Mais elle n'a jamais nié ça. Elle était femme dans l'acceptation même de son corps. Et elle n'est pas la seule dans ce domaine.
Christiane Rancé, à l'instant, pour son dictionnaire amoureux des saints, lui aussi toujours disponible en librairie, aux éditions Plon. Vous écoutez Radion et Wagon Livre, votre émission littéraire, émission rétrospective de certains grands moments de l'année 2019. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et l'on marque tout de suite, si vous le voulez bien, un premier intermède musical.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une rétrospective des grands moments de l'année 2019. Et je vous propose de réentendre Pauline Maucor. Pauline Maucor est journaliste, notamment à France Culture. Elle a été aussi journaliste pour RFI. Depuis 2008, elle s'intéresse aux traces que laisse la guerre sur ceux qui la font. Elle est l'auteure de documentaires, de reportages et de fictions radiophoniques diffusées dans Sur les Docks, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre et La Vie Moderne, des émissions de France Culture. Je l'ai rencontrée durant l'été 2019, alors qu'elle était en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay. Et nous avons eu l'occasion de parler et d'échanger autour de son ouvrage intitulé « La guerre et après », un livre dans lequel elle a couché sur le papier le témoignage de 10 soldats français qui racontent comment la guerre, à travers les opérations militaires extérieures, les a marqués à jamais. Pauline Maucor.
Il y a une personne, en fait, qui n'est pas dans le livre, mais qui témoigne pour une émission, enfin, dans le cadre de l'émission Les Pieds sur Terre, et qui, d'ailleurs, est restée dans l'armée, hein, parce que la plupart, ils démissionnent au bout d'un moment, parce que c'est trop dur. Mais cette personne, elle a trouvé une façon de survivre et de pas trop mal le vivre, en fait. Sa thérapie, c'est d'aller dans les clubs échangistes. Et en fait, dans les clubs échangistes, cette personne, elle se sent à égalité. Elle est nue avec d'autres personnes nues. Elle est là pour se donner du plaisir. Et puis, souvent, ses partenaires de jeu sexuel s'intéressent à ses exploits sur le terrain. S'intéresse à son travail. Et donc là, ce militaire, dans ce club échangiste, il trouve une reconnaissance, en fait. Il trouve une écoute qu'il trouve nulle part ailleurs, qu'aucun psychologue n'a su lui apporter à son goût. Et donc lui, en fait, j'ai l'impression, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, que c'est une des personnes qui s'en sort le mieux. Parce que, voilà, en fait, il s'est servi de son expérience traumatique, là où il a failli perdre la vie dans un ruisseau en crue, alors que les talibans arrivaient, enfin les insurgés arrivaient et canardaient, quoi. Il a vu sa vie défiler, et en fait, le fait d'avoir survécu à ce moment-là, il s'est dit, ok, bon, bah, à partir de maintenant, je vais faire tout ce que je me suis interdit jusque-là, je vais vraiment vivre. Et il s'est servi de cet élément comme un révélateur, en fait. Et voilà. Donc lui, il va vers la vie.
Alors justement, puisqu'on parle du sexe, il en est tout de même question dans les témoignages. En Afghanistan, le sexe n'est pas possible. C'est éventuellement plus envisageable en Afrique.
Oui.
Avec les nailles. C'est-à-dire, les nailles, ce sont des femmes de ménage ou des filles de bar qui se prostituent, enfin, avec lesquelles on peut coucher en payant des sommes ridiculement faibles.
Oui, alors effectivement, ça c'est un caporal hein, qui nous raconte ça, que autant en Afghanistan, les militaires sont enfermés dans des bases, ils n'en sortent que pour des missions, autant en Afrique, donc là c'est en Centrafrique, ils sont vraiment parmi la population. Ils vivent dans des écoles réquisitionnées, à proximité du marché. Et d'ailleurs, il y a eu des scandales hein, qui ont été révélés, où des enfants ont été se sont plaints de l'armée française, des enfants locaux se sont plaints d'abus sexuels, tarifés ou pas. Et donc effectivement, les militaires français sont en contact direct avec la population. Donc après, ensuite, il se passe...
Alors en Afghanistan, il y a un épisode drôlatique. Il y a un chef de l'armée afghane légitime qui lui propose de l'argent à un soldat français. D'ailleurs, c'est amusant parce que les Français disent que finalement, les Afghans sont plus ou moins homosexuels. Enfin, s'affichent assez clairement et sont prêts à payer quoi dans le...
Oui, voilà, moi c'est ce qu'il y a. Il y a plusieurs hommes qui m'ont raconté leur étonnement à voir des militaires afghans se tenir par la main, s'embrasser et dire assez facilement que. Enfin, en tout cas, oui, c'est ce qui se dit, qu'il y a des pratiques homosexuelles au sein de l'armée afghane. Bon, je ne suis pas allée vérifier, mais en tout cas, c'est. Ça fait pas mal parler les militaires français, ouais.
Il y a Pauline, un excellent témoignage, c'est celui du légionnaire kazakh, donc qui est musulman, hein, et qui effectivement a des propos assez terribles sur la Légion. Alors il y a ces carnets de formation, les classes à Castelnaudary, ensuite c'est Aubagne, le pas Légion, 98 pas par minute, etc. Il faut devenir un soldat d'élite, hein, quand on est dans la Légion. Et finalement, c'est quelqu'un qui avait pris une assurance, comme beaucoup de militaires, en cas de blessure, à l'AGPM, c'est un contrat objectif prévoyance. Lui sera blessé, mais comme il n'est pas dans le périmètre d'explosion, l'assurance ne veut pas, l'indemniser. Et dans le témoignage que vous rapportez de lui, il dit « cette assurance, c'était la grosse arnaque, comme tout le reste à la Légion ». C'est terrible.
Ouais, alors lui, il est très déçu. Ouais, ouais, effectivement, il pensait arriver dans un corps d'élite et c'est pas tout à fait ce qu'il a vécu en fait. Il a trouvé que il était assez maltraité en fait, que les hommes n'étaient pas respectés. Enfin, lui, il l'a pris comme de l'irrespect. Ses entraînements à l'extrême, il a trouvé que c'était outrance quoi. Il en garde un très très mauvais souvenir. Ouais. Il n'a pas compris en fait pourquoi on les traitait de cette façon-là.
Et il dit, Pauline, je vous lis hein, à travers le témoignage de ce légionnaire kazakh, « J'ai perdu 5 années de ma vie données à la Légion, à la France. Je pensais que la nation serait fière de moi, reconnaissante, mais elle me rejette comme un fils indigne. Au final, je n'obtiens ni la nationalité, ni aucune indemnisation pour la blessure. » Ça fait mal au cœur de se dire que ces hommes ont souffert, ont tout de même fait face à des situations extrêmes et de se retrouver dans le civil avec aussi peu de reconnaissance, parfois dans la solitude, dans la dépression, dans la dépendance à l'alcool ou aux drogues. Ça fait mal au cœur. Enfin, ouais. C'est aussi une découverte. J'ai découvert beaucoup de choses grâce à vous, Pauline, et à ces témoignages.
Mais en fait, ce légionnaire, moi, je l'ai rencontré grâce à son avocate qui donc essaye de défendre son cas parce que au-delà de la maltraitance dont il se plaint du fait de l'entraînement à la Légion, c'est effectivement l'assurance à laquelle il a souscrit. Il comprend pas, parce qu'en fait, il aurait été un peu plus proche du périmètre d'explosion, il serait mort. Et donc, en fait, l'assurance, c'est un système un peu... il trouve ça complètement...
un peu grotesque et injuste, en plus.
Exactement, puisque il serait mort. Donc, l'assurance dit... Pour vous indemniser, il aurait fallu que vous soyez plus près, donc mort. Or là, il a survécu parce qu'il était quelques mètres un peu plus loin, mais il a des traumatismes qui ont été identifiés par les médecins, des traumatismes psychiques notamment. Et l'assurance, elle ne reconnaît pas parce qu'il n'était pas dans la périmètre. Donc il trouve ça hallucinant, quoi.
Et les traumatismes aussi, alors c'est drôle et ça ne l'est pas, c'est que les chiens qui sont engagés sur les opérations, il y a un moment, il y a un chien aussi qui, comme les humains, est sous le feu et entend des bombardements, et le chien a uriné, le chien est, comme certains soldats, victime d'un SSPT, abréviation.
Syndrome de stress post-traumatique, il vient se protéger entre les jambes de son maître, Il décompense.
C'était Pauline Maucor, journaliste à France Culture, pour son ouvrage « La guerre et après », disponible aux éditions Les Belles Lettres. On marque une nouvelle pause musicale à bord de votre émission littéraire Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Juste après, je vous ferai réentendre un extrait d'entretien avec un jeune romancier, Jean-Baptiste Maudet, qui a signé en 2019 son premier roman intitulé Matador Yankee, premier roman qui a d'ailleurs été couronné par le prix Orange, le prix lecture de Orange, qui est un prix effectivement assez convoité. Bonne fin de matinée sur Radio. Nous revenons dans quelques minutes après la pause musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons la rétrospective 2019 des grands moments de votre émission littéraire. Place cette fois-ci à Jean-Baptiste Maudet. Jean-Baptiste Maudet est géographe, il enseigne à l'université de Pau. En 2019, il a publié Matador Yankee, son premier roman aux éditions Le Passage, premier roman qui a été couronné du prix Orange. Dans Matador Yankee, Jean-Baptiste Maudet raconte le parcours de Harper, qui est un torero américain raté et qui, effectivement, n'a pas vraiment le choix, puisque pour effacer une dette de jeu, il va aller torer dans un tout petit village perdu au Mexique. Alors avec Matador Yankee, sur les traces de son héros, John Harper, Jean-Baptiste Maudet entraîne le lecteur dans un road trip aux odeurs enivrantes, aux couleurs saturées, où les fantômes de l'histoire et du cinéma se confondent les vertèbres de l'Amérique craquent sans se désarticuler. Jean-Baptiste Maudet, rencontré lors de la 12e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot, fin septembre 2019.
J'ai rencontré des toreros américains à Los Angeles qui rêvaient de torer, donc d'aller en Espagne, donc d'aller au Mexique, qui parlent espagnol et qui ont même une attitude de gringo.
Ils sont jeunes.
Alors souvent, ils sont plutôt âgés, la carrière est derrière eux, parce que en quelque sorte, la mode aussi de la tauromachie, notamment dans des villes comme Tijuana ou dans des villes comme Los Angeles, San Diego, aujourd'hui, c'est plus tellement à la mode, la tauromachie. Elle l'a été dans les années 50, 60. On voit cette galerie aussi de personnages, Orson Welles, on voit des acteurs, on voit même Robert Redford. On voit,
Robert Redford, adolescent, même dans le
Robert
public.
Redford, adolescent, je crois, exactement. Hein. Donc, cette pratique-là, elle a aujourd'hui beaucoup perdu de son attraction et de son attirance.
Mais c'est fini cette image un peu mythique, l'Ouest américain, le cow-boy, le garçon vaché. J'ai pensé par exemple, en vous lisant, Jean-Baptiste Maudet, à un film avec Marilyn Monroe, c'est Bus Stop, où Marilyn Monroe a un rêve de conquête hollywoodienne, et puis il y a ce jeune plouc, en fait, qui va à un rodéo. Alors, je ne sais plus le nom de la ville, mais c'est là qu'il rencontre, dans le bar, Marilyn Monroe, oui, qui est serveuse. Et j'ai beaucoup pensé à cette... C'est très, très cinématographique, très, très années 50-60.
Oui. Oui, et ça, c'est un aspect qui me tenait à cœur, c'est de montrer que le monde du rodéo, le monde des cow-boys et le monde de la tauromachie, dans ces espaces-là, ben, ce sont des cousins. C'est-à-dire que ce sont vraiment des pratiques qui se confondent, qui se mélangent. C'est le monde des chevaux, c'est le monde des taureaux, c'est le monde du bétail. Et donc, dans notre imaginaire collectif, on a d'un côté la tauromachie espagnole, de l'autre côté les cow-boys américains. Ces deux personnages-là sont censés n'avoir absolument rien à voir ensemble. Et pourtant, on peut dire que le cow-boy de rodéo et le torero de la corrida sont des proches cousins.
Et c'est-à-dire que maintenant, aux États-Unis, entre la frontière, parce qu'il est beaucoup question de cette limite, de la frontière. D'ailleurs, même votre héros, vous écrivez, il se sentait de la frontière. Bon, il a une double culture, mexicaine et américaine. Mais c'est-à-dire que la tauromachie, je parle l'Amérique du Nord ou Amérique centrale, est-ce qu'aujourd'hui c'est ringard? Est-ce que c'est fini? Est-ce que l'âge d'or de cette période où tout de même était valorisé le corps, la force, le combat entre l'animal et l'homme, est-ce qu'aujourd'hui c'est fini, dépassé?
Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'aux États-Unis d'Amérique, la fascination pour l'exotisme qu'a pu représenter la tauromachie mexicaine, elle est un petit peu dépassée. De même que la ville de Tijuana, qui a fait beaucoup fantasmer l'Amérique. Aujourd'hui, les villes du loisir ou de la démesure américaine se situent plus du côté mexicain. On va plutôt à Las Vegas qu'à Tijuana. Las Vegas a grandi sur les décombres de Tijuana, qui était la ville de toutes les licences.
Et c'est-à-dire que finalement, la tauromachie, maintenant, c'est l'Europe, c'est l'Espagne qui reste le pays central dans le monde où, alors très critiqué, bon, la France aussi, on sait qu'il y a beaucoup d'associations, qu'il y a aussi un combat contre la cruauté érigée en spectacle dans les arènes, je ne sais pas. Vous vous positionnez par rapport à ça?
Alors, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est que c'est un sujet très controversé, donc c'est une position pour une aventure romanesque qui aussi fait travailler en nous ces lignes-là, entre ceux qui ne connaissent pas, entre ceux qui connaissent et qui apprécient, entre ceux qui connaissent et qui détestent. Tous les points de vue sont recevables. Et quand on lit un roman qui, de toute façon, vient trifouiller cette matière et l'écho que ça peut faire en nous, c'est évident que ça rajoute aussi, je pense, une dimension au roman. Parce que même le torero, lui, il se pose des questions. Il se dit, mais est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que c'est bien raisonnable au tout début du 21e siècle d'être encore torero? Qu'est-ce que ça représente? Donc il y a aussi ces décalages et cette réflexion sur la transformation historique de nos pratiques, de nos rapports aux animaux, de nos rapports à la violence et du monde du spectacle.
Et d'ailleurs, il faut dire que votre héros, John Harper, donc ce torero blond américain qui ressemble à Robert Redford et qui a cette double culture mexicaine et américaine, dans le roman, il cherche toujours à gagner du temps, ne serait-ce que par rapport au remboursement d'une dette de jeu, puisque malheureusement, il s'est fait un peu brûler par son addiction au jeu et peut-être aussi par l'ennui. Puis il gagne du temps aussi par rapport à la fameuse femme qui a enlevé... Enfin voilà, il y a toute une histoire. Oui. Donc il gagne du temps et il gagne du temps aussi Peut-être parce que la vie lui est un peu insupportable. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu dépressif et que seul l'exercice de la fonction de torero pourrait sauver. Finalement, c'est une sorte de désespéré.
C'est un désespéré. Sa vie lui échappe. C'est-à-dire qu'il a rêvé d'être torero. Il n'a pas été à la hauteur de son rêve. Ensuite, il a des dettes de jeu, il est alcoolique, donc il végète autour de cette frontière sans trop savoir ce que va être sa vie. Et puis cette aventure, le fait de devoir retrouver Magdalena, la fille du maire, cette aventure le propulse dans un road movie, hein, dans un road trip et dans un road movie, avec cette galerie de personnages qui l'oblige évidemment à repenser à sa vie. Parce que certains, au moment où Harper les rencontre, certains personnages comme Miguel par exemple, bah, lui au contraire retrouve une énergie, une vitalité, il pense que sa vie était derrière lui, à toujours être la doublure de son frère karatéka, et finalement lui va rencontrer la femme de sa vie, va rencontrer l'amour et se relance dans quelque chose. Donc autour de ce personnage qui est effectivement Harper, qui gagne un peu de temps et qui sait pas trop, une sorte de glandouille esthétique on pourrait dire, il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, ce qu'il peut encore faire de sa vie, ces personnages là l'aident à repenser à sa vie.
Jean-Baptiste Maudet, Matador Yankee, c'est le titre de votre premier roman prix Orange 2019. Justement, on parlait de cet âge d'or de la tauromachie, tantôt aux États-Unis, tantôt au Mexique. Alors, il y a j'aimerais que vous nous parliez de la monumentale de Las Playas, donc dans cette ville mexicaine de Tijuana, qui apparemment a connu des heures exceptionnelles et qui a attiré le grand monde du cinéma américain, captivé par ses combats. Alors évidemment, vous aviez mentionné Orson Welles, mais je les cite puisque c'est page 14, hein, Rita Hayworth, Ava Gardner, Frank Sinatra, vous parlez même de Lee Marvin, James Coburn, toutes dents dehors, souriant au-dessous d'une immense tête de taureau, même le milliardaire, hein, Howard Hughes. Et puis il y a un personnage, donc c'est Antonio, ce personnage qui va demander à votre héros, John Harper, d'aller combattre en échange d'une forme de banqueroute. Et alors, ce monumental de Las Playas, l'âge d'or, c'est les années 50.
Oui, alors c'est un lieu assez extraordinaire, parce que déjà, géographiquement, il est situé à la frontière. Mais quand on dit à la frontière, si vous regardez une image satellite ou si vous regardez une photo aérienne, quand je dis à la frontière, c'est à 10 mètres de la frontière. Vous avez le mur qui se prolonge dans la mer au niveau de Tijuana, et derrière ce mur, vous avez la monumentale des plages, cette arène de Tijuana, qui est positionnée ici parce qu'elle attire tout le public américain. Elle attire le public de San Diego et le public de Los Angeles, qui est à moins de 2 heures de route. Donc vous avez à moins de 2 heures de route d'une immense agglomération comme Los Angeles, où est en train d'exploser, enfin depuis longtemps, mais le cinéma, le monde du spectacle, et vous avez à moins de 2 heures les arènes de Tijuana. Donc à l'époque, dans les années 50, dans les années 60, la tauromachie, elle est très à la mode. Et dans les milieux hollywoodiens, ça se fait d'aller à Tijuana et ça se fait d'aller voir un spectacle. Donc on a ces images, on a ces photographies de James Coburn, de Rita Hayworth, on a en tête des images d'Orson Welles allant à la corrida, allant même ensuite
John
en Espagne.
Wayne aussi.
John Wayne aussi. Donc on a ce milieu du spectacle qui est quand même très attiré par un autre milieu de spectacle qui est celui de la tauromachie. Et il y a quantité de films hollywoodiens qui sont produits dans ces années-là, des films souvent plutôt de série B, autour de la thématique tauromachie qui était très à la mode. Alors, Tijuana, cette arène, elle a symbolisé ça. Et ensuite, à partir des années, on va dire, fin des années 60, début des années 70, comme ailleurs d'ailleurs, hein, mais il y a l'âge d'or de cette période, de cette rencontre entre le milieu hollywoodien et la tauromachie, il est un petit peu dépassé. Et aujourd'hui, c'est même assez subversif pour un acteur américain, de par la censure, de dire officiellement qu'il aime la tauromachie.
Jean-Baptiste Maudet, à l'instant à notre micro, Jean-Baptiste Maudet, qui signait en 2019 son premier roman intitulé Matador Yankee aux éditions Le Passage, ouvrage toujours disponible en librairie. Vous écoutez Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi, un nouvel intermède musical et on se retrouve pour la suite de notre émission.
Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm hell when I am falling short.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de la rétrospective 2019 des grands moments de Wagon Livre, cette fois-ci avec la romancière et journaliste Dominique de Saint-Perne, qui a été auteur chez Grasset, notamment de l'extravagante Dorothy Parker en 1994. On mentionnera aussi Les Amants du Soleil Noir, Harry et Caresse Crosby en 2005 et Pour l'amour d'un guerrier en 2007. Et puis chez Stock, courant 2019, Dominique de Saint-Perne a fait paraître Edmonde, un roman dans la collection La Bleue, roman dans lequel Dominique de Saint-Perne revient sur la romancière et journaliste Edmonde Charleroux, en tout cas dans les toutes premières années de sa jeunesse, puisque son roman s'arrête à la Libération, c'est-à-dire après 1945. Alors, Dominique de Saint-Perne a évoqué le personnage d'Edmond de Charleroux dans sa jeunesse. Elle est née d'ailleurs à Marseille. Et je demandais en tout cas aussi à Dominique de Saint-Perne si Edmond Charleroux restait une femme moderne.
Ah, moi je pense, parce qu'elle est étonnamment moderne, cette femme, de par sa vie déjà. Elle a eu une vie amoureuse et sexuelle complètement libre, vraiment avant l'heure. Hein. Et puis elle n'en a jamais fait qu'à sa tête, c'est-à-dire oui, elle a été une femme journaliste dans une société où il était très mal vu que les femmes travaillent. Enfin vraiment, oui, elle a été d'une modernité et sans jamais renoncer à ce qui lui permettait d'être ce qu'elle était, sans non plus froisser sa famille, très conservatrice. Mais non, elle est très très moderne.
Il y a quelques citations absolument remarquables. Vous citez Nietzsche à un moment dans le roman. Nietzsche qui a écrit « Il faut porter un chaos pour accoucher d'une étoile filante ». Un petit commentaire, Dominique de Saint-Perne, par rapport.
Mais je pense qu'à peu près tous les personnages que l'on croise dans ce livre ont traversé ce chaos et avaient en eux une étoile filante, que ce soit Samson François, que ce soit Edmond Charleroux. Oui, l'art les a sauvés. C'était des gens qui regardaient vers le ciel aussi, qui regardaient la réalité, mais qui regardaient vers le ciel, que les contingences et les duretés, la cruauté de la vie n'empêchaient pas d'être ou d'exercer leur art. Voilà.
Alors c'est aussi un roman hommage à la ville de Marseille, de cette manière. Marseille y tient une place importante, il y a de très très belles pages.
Marseille martyrisée à cette époque, beaucoup plus que Paris, on ne l'imagine pas, bombardée et...
Vous parlez de... Alors, les horreurs qui se perpétraient derrière la ligne de démarcation étaient pour les autres. Elles ne souilleraient pas Marseille. Marseille, la bigarrée, l'exubérante, l'affranchie au sens tourné vers le bleu éclatant et les ocres profonds de l'Afrique. Et puis, effectivement, vous le rappelez, Marseille, dernier port libre d'où l'on pouvait encore s'évader vers Gibraltar, les Antilles, l'Amérique. Marseille, la bien-aimée, la secourable. C'est aussi un bel hommage à cette ville de...
Très bel hommage, parce que c'était une ville, c'est la ville la plus bigarrée qui soit, la plus métissée qui soit. Et je trouve que c'est bien de le rappeler aussi. Elle a tout de suite aimé cette ville. Une fois qu'elle l'a connue pendant la guerre, elle a adoré cette ville.
Alors, elle va devenir un peu agent de liaison. On est presque dans un roman d'espionnage du roman, puisque Edmond non seulement acquiert la confiance d'hommes, et pas n'importe lesquels, puisque ce sont des chefs de réseau de résistance. Alors, je ne sais pas si elle a fait partie du réseau Brutus.
Non. Jamais. Non, pas
mais
du tout.
Mais elle a entendu parler de quelqu'un qui va prendre une place importante dans sa
bien
vie.
Bien sûr, et qui est le numéro 2 du réseau Brutus et qui s'appelle Gaston Defer. Mais elle ne va pas le connaître à cette époque-là. Elle appartenait à un petit réseau créé par un transporteur routier, le réseau Robert Guy. Tout petit, mais qui a des antennes un petit peu partout, et qui était en lien avec OSS, avec l'agence OSS. C'est fou, vous vous souvenez de Hubert Bonisseur de Labatte, OSS 117. Eh bien, elle est une OSS, numéro 13 d'ailleurs, je crois, et qui était en fait, il travaillait pour ce qui deviendra plus tard la CIA. Voilà. Mais elle était agent de renseignement. Elle faisait pas de sabotage. Et comme elle était très mondaine, qu'elle vivait une vie, elle entrait dans les salons de gens tout à fait germano-compatibles. Elle écoutait tout ce qui se disait. Voilà.
Et puis elle va devenir la secrétaire particulière de celui qui, à l'époque, n'est que général. Plus tard, on le connaîtra maréchal, mais le général Jean de Lattre de Tassigny, qu'elle présente un peu comme un bourru et un vrai militaire,
un macho, de toute façon.
On peut être militaire et un peu délicat. Non, ça n'existe pas,
Dominique. Écoutez, on ne dirige pas le débarquement de Provence.
Mais ce qui est magnifique, c'est que la femme du général de Lattre de Tassigny voulait que Edmond Charleroux prennent en charge la formation de jeunes femmes.
Oui,
D'un point de vue social.
Oui, la formation des infirmières et des.
Et alors elle a refusé.
Et bon, bah, elle s'est dit non, mais je ne vais pas quitter mon général et risquer d'aller envahir Berlin pour former des jeunes filles à l'arrière. Vous voyez.
Charleroi avait donc un vrai désir d'action.
C'est une femme, c'est ça. Ah, écoutez, moi, ce qui me frappe, d'abord, c'est une femme d'action. Elle n'est heureuse. Elle est elle-même dans l'action, aussi dangereuse soit-elle. Et ce que j'ai aimé chez elle, c'est sa virilité. C'est une femme virile. Ah oui. Je pense qu'elle était l'homme de la famille, d'une certaine manière.
Oui, parce que Jean était plutôt artiste, homosexuel, et il deviendra prêtre.
Je pense qu'il était homosexuel. Mais ça, c'est une crise, en tout cas, qui correspond à sa prime jeunesse. Enfin, bon, après, il deviendra prêtre bien plus tard, mais il fait preuve d'un héroïsme formidable.
Oui,
il
s'engage se battre, aussi, lui, en Afrique du
après
Nord.
Après avoir eu des tentations maréchalistes, il part en Afrique du Nord, il est dans les troupes du général Giraud, il sera le traducteur de De Gaulle, enfin vraiment, il est formidable, genre, mais c'est un artiste, effectivement. Mais Edmond aussi, d'une certaine manière, c'est pas une nature poétique, Edmond, mais c'est l'homme de la famille. Voilà. Dès qu'il y a un problème majeur en général, ce qui est le cas dans cette période chaotique, tout le monde se tourne vers elle.
C'était Dominique de Saint-Pern à l'instant pour son roman Edmond, disponible en librairie aux éditions Stock. Je l'avais rencontrée alors qu'elle était l'invitée du club des écrivains de Bourgogne à Dijon au Grand Hôtel de la Cloche l'année dernière. C'est la fin de ce numéro de Wagon Livre. Vous retrouvez sur le site d'archives de l'émission les références des ouvrages dont il a été question. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 18 janvier, à 11h, toujours sur Radion, pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. En attendant, je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.